France Inter.
Merci beaucoup. Le prochain flash, ce sera dans une heure à 15h sur France Inter.
Si Kiki ne fait pas partie de l'espèce canine racée, par contre, c'est un spécialiste de la racine carrée.
Actuellement, vous entretenez combien de puces ?
J'ai toujours entre 150 et 200 puces.
Racine carrée de 4.
C'est désagréable, hein ? Même dans mes beaux placards de ma cuisine, j'ai des qu'à faire.
Et pour finir, sachez qu'un mammouth l'a échappé belle en Sibérie.
Dans cet épisode, nous allons vous raconter la domestication animale, celle des chiens, des chats, des moutons et des chèvres, celle des vaches et des chevaux. La domestication des animaux fait partie des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité. Elle a commencé il y a plus de 10 000 ans. Comment certains animaux sont-ils passés du statut de gibier à celui d'animaux domestiques ? Pourquoi l'homme s'est-il soudain autorisé à s'approprier des animaux ? Nos lointains ancêtres ont laissé des indices, des ossements. Avec l'ADN ancien, on peut écrire l'histoire des hommes, mais aussi celle des animaux. C'est cette histoire que Jean-Denis Vigne va vous raconter. Jean-Denis Vigne est archéologue et biologiste, directeur de recherche au CNRS, chargé de mission au Muséum national d'histoire naturelle à Paris.
Les aventuriers sur France Inter.
Bonjour Jean-Denis Vigne.
Bonjour.
Alors, à quand remontent les traces des premières domestications ?
Ah, le tout premier, c'est le chien. En tout bien, tout honneur, notre compagnon le plus proche, sans doute, qui a été domestiqué il y a 15 000 ans, au moins, puisque dans la communauté scientifique, on est un petit peu en discussion sur des dates plus anciennes. Mais 15 000 ans, c'est une période où n'existe ni l'élevage, ni l'agriculture. C'est véritablement une période de chasseurs-cueilleurs, on est encore dans les temps glaciaires. Donc le chien est le tout premier et c'est d'une certaine manière l'animal domestique des chasseurs. C'est-à-dire que à partir du moment où il est domestiqué, il n'y a pas de développement d'agriculture. C'est un compagnon de chasse, c'est un compagnon de campement, c'est un animal qui peut alerter quand il y a un prédateur ou un danger. Et puis c'est un compagnon sans doute déjà à l'époque de vie de tous les jours. Il y a une espèce d'entrée en familiarité, d'entrée dans la sphère familiale.
Donc on pense qu'il y avait des relations entre les chiens et les hommes, des relations amicales, des relations fusionnelles.
Alors, il y a d'abord sans doute des relations écologiques. Hein. Chiens et hommes sont des animaux sociaux, sont des animaux qui chassent en groupe, sont des animaux qui fréquentent les mêmes campements, les mêmes porches de grotte, et donc ils ont toutes les raisons de s'être rencontrés, parfois de s'être heurtés, d'avoir été en compétition, mais parfois aussi de s'être entraidés. C'est la première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, une fois que la relation est engagée dans une entraide éventuellement, ou une approche parce que le chien, ou les loups plutôt, puisque c'est bien les ancêtres des chiens, s'approchent des campements, alors là, on peut imaginer qu'il y a une relation plus intime, plus affective qui s'installe.
Qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 000 ans ? Et comment on le sait ?
Alors, on le sait parce que nous autres archéologues, nous portons une attention particulière aux ossements des animaux qu'on trouve dans les sites archéologiques. Et ces ossements nous racontent plein de choses. Ils nous racontent d'abord ce que les humains faisaient de ces animaux, avec des traces de découpe qui témoignent de leur consommation, etc., etc., parfois des sépultures. Et puis, ils nous racontent aussi comment les loups, qui vont finalement changer de milieu, vont évoluer vers une forme différente, qui va être le chien. Cette forme différente, elle est plus la même en termes de forme du squelette. Il y a une réduction de taille qui est importante et assez rapide, semble-t-il. Et puis, il y a aussi d'autres choses que nous autres archéologues, on ne voit pas. C'est que probablement, il y a un langage qui s'établit entre homme et loup, homme et chien. Par exemple, l'aboiement, qui n'est utilisé chez le loup, je crois, que chez les jeunes, mais persiste à l'âge adulte et c'est un langage d'alerte, de communication entre les chiens et les hommes. Et nous avons nous-mêmes un langage particulier quand nous parlons à nos chiens, et c'est sans doute pas du XXe siècle, ni du XXIe, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien.
L'homme a donc domestiqué le loup il y a plus de 15 000 ans, il en a fait le chien, et bien des siècles plus tard, voici comment travaillait Monsieur Renard, éleveur de chiens, extrait de l'émission Dimanche à la campagne du 20 novembre 1966.
Bonjour Monsieur l'ami.
Ah Monsieur Renard, il paraît que vous êtes un très très ancien éleveur.
Ah bien, vous savez, oui, j'ai toujours chassé, j'ai toujours élevé des chiens, mais maintenant, je me suis mis aux races pures depuis quelques années.
C'est ce que vous préférez, les races pures ?
Bien oui, parce que j'ai eu beaucoup de résultats avec des races pures. Dans mon jeune temps, même avec mon père et mon grand-père, on élevait des chiens qui étaient sans pédigré. Mais depuis que je fais la grande race, eh bien, j'ai obtenu des succès, comme le championnat de France et la sélection de la Coupe d'Europe.
Alors Jean-Denis Vigne, que sait-on de l'élevage des chiens de nos ancêtres? Comment ils les élevaient? Est-ce qu'on peut le savoir?
Alors, ce qu'on en sait, c'est pas grand-chose évidemment, hein, mais ce qu'on en sait, c'est qu'il y avait des chiens qui étaient proches de l'homme et qui vivaient probablement dans la sphère domestique. On le sait parce qu'on trouve, alors c'est un petit peu plus récent, c'est pas 15 000 ans, c'est 13 000, bon, mais on trouve des tombes, en particulier en Palestine, où des chiens, des jeunes chiens, sont inhumés avec l'homme. Alors les tombes, c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous archéologues, parce que finalement, ce sont des mises en scène.
Vous dites que c'est un théâtre.
Voilà, c'est un théâtre avec une mise en scène qu'on fige dans un moment d'hypersensibilité du groupe humain, parce qu'évidemment, on vient de perdre quelqu'un d'important, et on construit une mise en scène avec la place de l'animal, qui est la tombe à laquelle je pense, il est sous la main de cette jeune femme, donc il y a une espèce de protection de ce chiot, et cette mise en scène, même si c'est pas une traduction directe de ce qui se passe dans la vraie vie, c'est une projection mentale de ce que ce groupe humain imagine de ce qui va se passer dans l'au-delà. Et c'est d'autant plus fort finalement, hein, parce qu'on a accès direct à l'image mentale.
Donc il y a des relations fortes entre les chiens et les hommes depuis plus de 15 000 ans. Et puis la domestication s'est poursuivie. Qu'est-ce qui s'est passé après le chien ?
Alors après le chien, eh bien, là encore, en tout bien tout honneur, c'est le chat. Dans l'état actuel des données, c'est le chat qui a été domestiqué ensuite, pas très longtemps après, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, aux alentours d'il y a 11 000 ans. Et le chat, j'ai dit que le chien c'était l'animal domestique des chasseurs, oui. Le chat c'est l'animal domestique des agriculteurs. Parce que c'est avec l'agriculture qu'on le voit apparaître, au Proche-Orient. Et on imagine assez bien que c'est l'accumulation de déchets de l'agriculture ou de stocks de graines dans les premiers villages qui a attiré des souris et que ben, les chats ont suivi parce que c'est leur nourriture principale.
Il y a tant à dire sur le chat qu'on va y consacrer un chapitre dans un instant, mais j'aimerais bien que vous nous parliez des autres.
Alors, bien ensuite, c'est un florilège de domestication, bon, sur un temps long quand même, hein, faut pas voir ça comme une révolution subite. Mais donc le chat, j'ai dit 11 000, ensuite aux alentours de 10 000, 10 500, toujours au Proche-Orient, le bœuf, le mouton, le cochon, la chèvre.
Ce qu'on appelle les ongulés.
Voilà, les ongulés, alors il y a les ongulés avec du lait et les ongulés sans lait, hein, le cochon, mais peu de temps après, en Chine, même histoire avec le cochon. Encore un petit peu plus tard, en Amérique, ne l'oublions pas, parce que les Amérindiens ont aussi inventé la domestication des animaux avec le lama et l'alpaca. Et puis, on a eu, alors, un petit peu plus tard quand même, hein, il y a 6000 ans, des grands absents de tout ce que je viens de dire. Le cheval, l'âne, le chameau, le dromadaire, le buffle, tous ces animaux qui ont offert à l'homme de la force de portage, la force de traction, de la monte, voilà. Ça, c'est toute une phase de domestication, et ça ne s'est pas arrêté. Encore aujourd'hui,
aujourd'hui, on domestique encore, on apprend à domestiquer des animaux, notamment les poissons.
Alors, ils ont été domestiqués en Orient dès la période contemporaine de la période romaine, hein, il y a un peu plus de 2000 ans. Et puis, la fin du XXe siècle, bah, c'est l'ère de domestication des poissons. Avec la maîtrise de l'élevage du saumon, de la truite, et puis ensuite, presque tous les poissons qu'on achète aujourd'hui sur le marché sont des poissons d'élevage.
Oui, c'est vrai. Alors, je retiens quelque chose que vous m'avez dit, il ne faut pas oublier la Chine, il ne faut pas oublier les Amériques. Ça veut dire qu'en même temps, il y a eu plusieurs foyers de domestication.
Oui, alors en même temps, c'est pas exactement en même temps, mais à l'échelle de l'histoire de l'humanité, oui, on peut dire que c'est en même temps. Ça veut dire qu'il y a un moment où dans l'histoire de l'humanité, la relation entre certains groupes humains, pas tous, hein, attention, et certaines populations animales, s'est intensifiée ici et là. Alors ça, c'est un grand mystère quand même, encore, même si on commence à avoir des explications, mais c'est un grand mystère. Alors on a longtemps cru que c'était le réchauffement climatique, la fin des temps glaciaires, réchauffement climatique, les hommes commencent à pulluler partout, ils ont besoin de se nourrir, ils meurent de faim, donc ils domestiquent. Bah non, ça marche pas cette affaire-là. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un système très complexe dans lequel il y a une décision des populations humaines de domestiquer ou pas, parce que comme je l'ai suggéré, il y a beaucoup de populations humaines qui n'ont pas domestiqués, qui n'ont pas pratiqué l'élevage, qui ont continué à chasser, qui ont construit des villes même en étant chasseurs-cueilleurs. Donc il faut prendre en considération cette grande diversité.
Vous parlez de peuples qui n'ont pas domestiqué, vous avez des exemples en tête ?
En particulier chez les Amérindiens, en dehors des grandes aires de domestication du lama, chez l'ère des Incas, grosso modo, hein, au sud, et puis au nord, domestication du maïs et puis du dindon, etc., les Amérindiens n'ont pas domestiqué. Ils auraient très bien pu. Enfin, je veux dire, ils avaient des voisins qui avaient des animaux ou des plantes domestiques. Non, ils ont fait, d'une certaine manière, un autre choix de société, en s'appuyant sur la chasse. Mais même chez nous en Europe, quand le néolithique arrive en Europe, eh bien, toute la bordure de la mer Baltique, donc le nord de l'Allemagne, le Danemark, etc., reste chasseur. Ça veut dire que sur un espace de 40-50 kilomètres, vous avez des sociétés qui restent chasseresses pendant 2, 3, 5, voire un millénaire, et puis d'autres à côté qui sont des sociétés d'éleveurs de bovins.
Et puisqu'on est en France,
Mais en France, on a un petit peu la même chose. Par exemple, on trouve des villages du néolithique dans le sud-ouest de la France, dans le Quercy, qui se mettent à l'agriculture, qui ont de la poterie, qui ont toutes les marques du néolithique, villages sédentaires, etc., mais qui continuent à chasser des aurochs, des cerfs, etc.
Et il faut souligner que la domestication ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut des années, des siècles.
Voilà, alors... dans les foyers de domestication, vous avez employé ce mot à juste titre, ça met très longtemps. Hein. Parfois, la domestication du cochon dans certaines régions du Proche-Orient, c'est 1000-1500 ans. Mais quand les animaux domestiques arrivent en Europe, arrivent en Afrique subsaharienne, arrivent en Asie du Sud-Est, alors ça peut se faire rapidement. L'adoption des animaux domestiques, des plantes domestiques, de l'élevage, peut se faire en quelques décennies. Et le changement de régime alimentaire est visible en archéologie.
Et dans un instant, vous allez nous parler du chat.
Bien sûr.
I'm exhausted, watching light clad dames through the water, catching light like blades through your body. The party's a blaze. We grew apart when you were fighting with your sister. I don't think I realize how horribly I miss you now. Regret is flowering me while I'm scooping knives. Hope you know that I just don't know what to do. 'Cause I only wanna be with you. I remember there was something strangely romantic.
Blades, c'était Arlo Parks.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
En ouvrant sa porte, l'autre matin, Madame Martinet, qui habite à Tanay, dans la Nièvre, a découvert un chat et elle a immédiatement reconnu Gribouille, un chat qu'elle avait donné à son voisin qui était parti en Allemagne il y a 2 ans. Le chat avait disparu au bout de 3 mois il avait tout simplement repris le chemin de sa maison et il lui a fallu 21 mois pour parcourir les 1000 kilomètres qui séparent Stuttgart de Tannay.
Dimanche dernier, on a vu arriver un chat dans un piteux état, très très maigre, et puis ma foi, il était couché devant ma porte de cuisine. Et aussitôt que j'ai ouvert la porte, il est arrivé, et puis on a dit, ça doit être Gribouille. Alors au nom de Gribouille, et ben, ma foi, il est venu, il a pleuré quand il nous a revus.
Extrait du journal parlé de France Inter de 1969, le retour de Gribouille. Le chat est l'animal de compagnie préféré des Français aujourd'hui. Il y aurait 500 millions de chats domestiques dans le monde. Et cette histoire a commencé il y a bien bien longtemps, Jean-Denis Vigne.
Oui, oui, absolument. Comme je l'évoquais, c'est l'histoire d'une domestication animale, de l'une des toutes premières, qui se fait dans le contexte de la naissance de l'agriculture.
Et on comprend bien cette domestication.
C'est assez facile et en même temps, c'est très... Ça nous informe sur des processus qui peuvent être comparables avec d'autres espèces. Mais pour le chat, c'est clair parce que on voit très bien ces premiers villages d'agriculteurs au Proche-Orient il y a 11 000 ans, dans la vallée du Nil il y a 6 000 ans, en Chine, dans la vallée du Yangtze il y a à peu près 6 000 ans aussi. On voit très bien ces agricultures naissantes dans des villages sédentaires. On voit très bien l'accumulation de stocks. Il y a des bâtiments spécifiques pour servir de greniers. Et ces greniers, ils sont aménagés de telle sorte que les souris ne peuvent pas y rentrer. Donc ça veut dire aussi qu'il y avait plein de souris partout. Et ces souris, on les trouve, nous autres archéozoologues. Et mon collègue Thomas Cookie, il a une méthode extrêmement incroyable d'analyse des formes de dents qui lui permet de reconnaître que ces souris sont bien des souris commensales qui sont rentrées dans les villages et pas des souris qui baladent un peu partout dans la nature. On les voit apparaître et c'est là qu'on voit apparaître les chats.
Donc on stocke du grain, on stocke des céréales, il y a des souris qui embêtent tout le monde et on domestique le chat. Est-ce qu'on sait comment on l'a domestiqué, comment on l'a apprivoisé, comment il est passé de l'état sauvage à l'état domestique?
Alors très probablement, puisque ça s'est reproduit trois fois, j'ai cité le Proche-Orient, la vallée du Nil et le Yangtze, très probablement à chaque fois il y a là aussi un enracinement dans une relation écologique. Assez banal, finalement. Les chats, c'est comme les renards, comme d'autres petits carnivores, ce sont les prédateurs naturels des souris. Les souris s'accumulent à un endroit, les chats suivent. Et les chats rentrent dans les villages humains sans probablement même se rendre compte que ce sont des villages humains. Ce sont de nouveaux écosystèmes qui ont été générés par l'apparition de ces premiers villages.
Ils ressemblent à quoi, ces villages?
Alors, ces villages, ils sont constitués d'une dizaine, une vingtaine, moins de 100 bâtiments, en général circulaires, construits en terre, et parfois en pierre.
Et donc on est il y a plus de 10 000 ans.
On est il y a plus de 10 000 ans et on les appelle villages et non plus hameaux parce qu'il y a un bâtiment communautaire au sein de ce village qui est un bâtiment beaucoup plus grand dans lequel on faisait un tas de choses, probablement des réunions. Alors, est-ce qu'elles étaient religieuses, est-ce qu'elles étaient politiques, peut-être les deux. Et puis on stockait des céréales. Et c'est amusant parce que j'ai fouillé avec mon collègue François Briouat un de ces villages à Chypre, et nous avons trouvé un de ces bâtiments, et les seuls restes de souris qu'on a trouvés sont dans ce bâtiment. Ce qui suggère quand même qu'il y avait bien du stockage de céréales, et c'était là qu'elles venaient. Donc et le chat aussi, d'ailleurs, il est dans ce bâtiment.
Donc on stockait des céréales, les chats venaient, et on les attire, et ils deviennent domestiques. Est-ce qu'ils ont changé de taille? Est-ce que leur morphologie a évolué?
Alors, bon, effectivement, il y a un renforcement. À partir d'un certain moment, les humains se rendent compte que le chat rend un service. Ils arrêtent sans doute de leur donner des coups de bâton pour les chasser de village. Très rapidement, sans doute. Mais la morphologie change peu, au début. C'est-à-dire que ce sont des très grands chats. L'ancêtre sauvage du chat, c'est le chat ganté. C'est le chat sauvage qu'on appelle africain ou du Proche-Orient. C'est un grand chat, très robuste. Et les premiers chats, pendant un millénaire, deux millénaires, ils vont être encore très robustes aussi, et probablement avoir le même pelage et des comportements un peu compliqués parfois, sans doute. Mais ce qui est important, c'est que, contrairement au chien qui a une morphologie extrêmement plastique, la diversité morphologique des loups est considérable, surtout dans l'Ancien Monde, mais les chats, de cette espèce en particulier, ils ont une diversité morphologique très très faible. Oui. Ils sont tous construits sur le même modèle parce qu'il y a une nécessité absolue pour toutes ces bêtes, c'est de se nourrir de rongeurs ou d'oiseaux. Et ce sont des machines à capturer les rongeurs et les oiseaux. Il n'y a pas de latitude possible. S'il y en a un qui a un maxillaire un peu trop gros, un peu trop petit, ça ne marche plus. Donc ils ont une contrainte génétique qui fait qu'ils varient peu. Et au cours de la domestication, finalement, la morphologie des chats évolue peu. Le plus important, c'est qu'on voit cette diminution de taille quand même à partir d'un certain moment. Et donc ça, c'est la modification morphologique qui apparaît, mais souvent longtemps après le début de l'entrée en vie commune avec l'homme.
Jean-Denis Vigne, j'ai lu que tous nos chats domestiques aujourd'hui descendraient plus ou moins de la même chatte, c'est vrai ?
Ah non, de la même chatte, non. Non, on ne peut pas dire ça. Mais en revanche, ils descendent tous, non pas plus ou moins, ils descendent tous de la même espèce, ce chat ganté que j'évoquais, qui a été domestiqué au Proche-Orient, puis plus tard dans la vallée du Nil. Ça a fait deux lignées de chats qu'on retrouve dans nos chats actuels, mais qui se sont mêlés. Parce que, si vous voulez, ces chats, ils sont restés dans la zone de leur domestication pendant un bon moment. Ceux du Proche-Orient ont commencé à pénétrer en Europe orientale avec, et ça c'est la génétique, la paléogénétique qui nous l'apprend, hein, commencé à pénétrer en Europe orientale avec le début du néolithique, hein, l'arrivée du néolithique. Et puis ensuite, un peu plus tard, les chats de la vallée du Nil ont traversé la Méditerranée, disons à l'âge du bronze, un petit peu avant l'Antiquité classique. Et finalement, tous ces chats-là se sont croisés et ont donné naissance à ces lignées domestiques qui sont reparties en Afrique, reparties au Proche-Orient, parties en Chine, remplacer la lignée chinoise qui s'était éteinte, parties en Amérique, en Australie.
La lignée chinoise s'était éteinte.
Voilà, la lignée chinoise. Alors ça, c'est amusant parce que en fait, on ne sait pas pourquoi. Il y a des bribes de l'histoire qui nous manquent encore. Mais cette lignée chinoise, elle s'est éteinte et les premiers chats qu'on trouve représentés dans les manuscrits des Han, hein, donc contemporains des Romains, l'ouverture de la route de la soie, etc., c'est des chats d'Occident, c'est pas les chats d'origine chinoise. Donc il y a un truc qui se passe à un moment.
Ils sont arrivés comment ? On ne sait pas.
Alors ça, on ne sait pas. Sans doute pas en nageant, hein, mais...
Oui.
mais voilà. Mais alors, pour revenir à votre question, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tous nos chats actuels viennent de la même espèce, pas d'une mère unique, puisqu'il y a des mères au Proche-Orient et des mères dans la vallée du Nil, qui ont des signatures génétiques légèrement différentes. Mais ils sont tous interfécond et d'une certaine manière, on pourrait dire presque consanguin à un certain degré. Hein, bien
sûr. Et à partir de quand peut-on commencer à parler d'animaux de compagnie ? On a retrouvé des chats dans des tombes aussi.
Oui, alors absolument. Alors un animal de compagnie, il faudrait déjà savoir exactement ce que c'est, au sens où nous le vivons aujourd'hui. Je pense que ça ne peut concerner que nous, tel qu'on le considère comme un bébé, comme un enfant, etc., dans des sociétés différentes et plus anciennes. Mais il y a des choses qui s'en approchent. En tout cas, les indices archéologiques montrent qu'il y a des choses qui s'en approchent. À Chypre, par exemple, avec Jean Guilaine et François Briouat, on a trouvé une tombe d'un jeune homme qui a été inhumé avec un chat. Un jeune chat qui a probablement été sacrifié pour l'occasion. Mais ce jeune chat, donc qui avait à peu près 8 mois quand on l'a tué et associé à l'humain, il est disposé dans la tombe, on retrouve le théâtre funéraire, hein, il est disposé dans la tombe de telle sorte qu'il y a un effet miroir, un regard de l'un sur l'autre, et en plus, quand on analyse en détail ses caractéristiques morphologiques, même s'il est très abîmé, ce pauvre chat, eh bien, on se rend compte qu'il a bénéficié d'un traitement particulier par rapport aux autres chats dont on trouve les os dans les dépotoirs du même village.
Le traitement, c'est par exemple une nourriture.
Voilà, c'est ça, très probablement. Alors, pour un chat de 8 mois, il était trop gros, d'une certaine manière, trop bien nourri. Son squelette avait grandi un peu plus que celui des autres. Et puis, il y a des petits indices, alors je ne rentre pas dans le détail, hein, mais qui montrent qu'il a bénéficié d'un traitement. Donc, il y avait dans ce village des chats qui baladaient probablement dans les ruelles et qui mangeaient les souris, puis qu'on tolérait. Parfois, on les mangeait, hein, parce qu'on s'est bien rendu compte de temps en temps. Et puis, il y avait quelques chats. Alors celui-là, sans doute, mais combien d'autres, on ne sait pas, qui bénéficiaient d'un traitement particulier, peut-être qu'ils vivaient dans les maisons, peut-être que ces chats, ils avaient une histoire particulière avec des enfants, parce que c'est souvent par les enfants que ça passe, hein, ce genre de choses, même encore aujourd'hui.
Et en Égypte, on a aussi retrouvé des chats dans des tombes. Ouais. On a longtemps dit que la domestication du chat avait commencé en Égypte. Vous êtes en train de raconter que ça a commencé avant. Mais en Égypte, il y avait une véritable relation entre les hommes et les chats.
Oui. C'est pas parce qu'on a trouvé, il y a une vingtaine d'années maintenant, que la domestication avait commencé plus tôt qu'en Égypte, au Proche-Orient, que la domestication égyptienne n'est pas importante.
Oui.
Elle est extrêmement importante parce qu'il y a un phénomène que vous venez de l'évoquer, qui est effectivement d'appropriation de ces chats par toute une société avec une déification, la fameuse déesse Bastet, les momies de chats, etc., etc. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que là aussi on a une mise en scène qui est particulièrement touchante. C'est dans un univers funéraire. On a une petite fosse dans laquelle ont été regroupés un mâle, une femelle et quatre petits. Et l'analyse morphologique et génétique montre que là aussi c'est une mise en scène, c'est pas les petits de ce couple de chats, quoi. Mais on a refait une famille de chats. Alors quelle est la signification? Mais en tout cas, très clairement, on a là un degré d'appropriation fort, et c'est la date probablement la plus ancienne, 3700 avant notre ère. Pour le chat en Égypte.
Jean-Denis Vigne, ce que vous racontez est très émouvant et on peut transposer l'histoire de la domestication du chat à beaucoup d'espèces.
Alors, cette approche par attraction alimentaire, puis qui ensuite se renforce avec tout un tas d'autres relations entre les humains et les non-humains, eh bien, ce chemin de domestication est envisageable pour le chien, au moins en partie, hein, attiré par les déchets de viande, etc. Est envisageable pour le sanglier, qui, on le sait maintenant, on a des éléments archéologiques, des signatures qu'on dit isotopiques, hein, qui nous montrent que les sangliers, au tout début de l'agriculture, se sont approchés des villages, se sont nourris des déchets, et peut-être que ils ont été tolérés, peut-être qu'on les a mis dans des enclos. Mon collègue, je citais Thomas Cookie, a montré, ça c'est formidable, on parle pas beaucoup de méthodes, mais a montré qu'on est capable maintenant, avec des outils de morphologie extrêmement précis et complexes, de déterminer si un sanglier a vécu dans un enclos, si on l'a privé de sa mobilité naturelle. Et ça, pour nous archéologues, c'est une bénédiction d'avoir un outil de ce type.
Jean-Denis Vigne, on fait une petite pause et dans un instant, on parlera des moutons, des chèvres, des bovins, des sangliers encore, si vous voulez bien, des daims. À tout de suite.
À tout de suite.
On écoutait Gérard Manset avec Deus, Animal en est mal.
Les aventuriers sur France Inter.
Monsieur Seguin n'avait pas de chance avec ses chèvres. C'était toujours la même histoire. Elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne et là-haut, le loup les mangeait. Ainsi, il perdit 6 chèvres. Ces bêtes étaient têtues comme Monsieur Seguin. Il décida alors d'acheter une nouvelle chèvre, plus jeune que les précédentes. Cette dernière était petite, avec un regard doux et de longs poils blancs. Il l'appela Blanchette. Elle était docile, se laissant traire sans bouger. Elle raffolait des caresses prodiguées par le vieil homme. Il pensait « Celle-là est contente, elle ne me quittera jamais !» Mais il se trompait.
Extrait de la chèvre de Monsieur Seguin d'Alphonse Daudet, les lointains ancêtres de Blanchette, on les trouve à Chypre, Jean-Denis Vigne. Que s'est-il passé à Chypre ?
Alors, à Chypre, c'est pas là qu'est née la domestication de toutes ces espèces, bien entendu, puisqu'ils n'avaient pas d'ancêtres sauvages sur cette île. Chypre, c'est un morceau de terre qui a surgi du fond de l'océan, alors il y a 10 millions d'années, hein, bien sûr, mais qui n'a jamais été rattaché au continent. Et c'est ça qui est intéressant, parce que Chypre est située près de cette zone du Proche-Orient où il y a beaucoup, beaucoup de domestication qui démarre, de plantes et d'animaux, et Chypre est en fait un réceptacle de cette évolution. C'est-à-dire que on va voir le néolithique s'installer à Chypre, et puis on va voir ces animaux domestiques peu à peu arriver sur l'île de Chypre, transportés par bateau, sans doute, depuis le continent. Et parfois, sur le continent, on n'est pas en mesure de détecter le début de la domestication, mais on voit arriver cet animal à Chypre, on se dit, bah forcément, il était domestiqué. Ça a été l'histoire pour le bœuf. Quand nous avons découvert avec mes collègues la présence de bovins à Chypre à une date extrêmement ancienne, qui est 8000, un peu plus de 8000 avant Jésus-Christ, sur le continent, tout le monde nous a dit « mais c'est pas possible, il n'était pas domestiqué l'auroch à ce moment-là ». Bon, on leur a dit « écoutez, regardez mieux, parce que pour qu'on mette des aurochs sur des bateaux,
oui,
ça va pas être si simple que ça, qu'on les emmène à Chypre et puis qu'on les développe dans un village ». Et on a regardé un petit peu mieux sur le continent et on a trouvé des indices très ténus de début d'élevage dès cette époque.
Mais alors qu'est-ce qu'on a trouvé à Chypre ?
Alors à Chypre, on a trouvé des os de bovins et de chèvres, qui venaient juste d'être domestiqués. On a bien vu qu'il y avait des petites modifications morphologiques qui étaient déjà liées à un début de domestication.
Donc ça, ce sont vos indices.
Voilà, c'est ça, c'est nos indices. Le premier indice, c'est pour ça que Chypre est important, c'est de les trouver à Chypre. Parce qu'ils vont pas venir par leurs propres moyens. La probabilité pour qu'ils traversent et qu'ils installent une population pérenne sur une île comme Chypre, c'est pratiquement zéro. Donc ils ont été très vraisemblablement introduits par les humains. Et donc, le fait qu'on les trouve là, c'est déjà un indice extrêmement intéressant. Puis après, quand on regarde les petits indices de morphologie, on dit « ah bah tiens, ils ont déjà été un peu domestiqués ». Probablement sur le continent, on les a apportés sous forme domestique. Et puis ça se reproduit pour d'autres espèces. Le mouton un petit peu plus tard, et le cochon un peu plus tôt.
Ils étaient domestiqués pour le travail, pour la viande, pour le lait ?
Alors ça, c'est aussi un mystère. Alors, pas complet, bien sûr, mais on a longtemps cru, de manière un peu simpliste, et puis avec une vision très très occidentalo-centrée, on domestique des animaux pour avoir de la viande sur pied, quand on en veut, quand on veut en manger, on les tue, et du coup, c'est beaucoup plus facile que d'aller chasser.
Mais bon,
ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout pour une raison simple, c'est que au Proche-Orient, comme dans beaucoup de régions, ces gens-là, ils ont des animaux domestiques, et puis, ils continuent à chasser. Ils continuent à se nourrir principalement de viande de chasse.
Et ça, on le sait. On retrouve
on le sait maintenant. Pas depuis très très longtemps. Ça fait 20 ans, 25 ans. Et c'est pas pendant quelques années. C'est pendant 1000 ans. Pendant 10 siècles. Imaginez, 10 siècles, ces gens-là continuent à se nourrir principalement de viande de chasse. Alors, mais pourquoi ont-ils domestiqué ?
Et donc ?
La réponse n'est pas immédiate. On a suivi un certain nombre de pistes. Pas toutes encore, parce que c'est beaucoup de travail. Moi, je me suis investi sur une piste qui est celle du lait. Pas pour le cochon, bien sûr, mais pour les bovins, les chèvres, les moutons. On s'est dit, est-ce que ces gens-là ont exploité le lait par hasard ? Alors l'idée qui était acquise, c'est que, c'était très tard dans l'histoire de la domestication qu'on avait été capable, suffisamment intelligent, pour exploiter le lait. Et on s'est rendu compte que le lait avait été exploité dès le début, que dans toute la Méditerranée, il y a des régions, comme l'Italie, le sud de la France, qui, dès le début du néolithique, ont fait un très gros usage du lait, en le transformant en fromage en particulier. On a des preuves de tout ça.
Dès le début ?
Voilà, dès le début. Et donc on se dit, ça pourrait être une raison. Mais c'est sans doute pas la seule. Vous savez, les bovins, dans beaucoup de populations, en particulier en Afrique, c'est un signe de richesse, une monnaie d'échange. En particulier, c'est extrêmement important sur le plan social, parce que c'est la dot de la fille, et quand on va vouloir marier la fille, plus on a de bovins, mieux on va la marier, ou réciproquement, ça dépend des sociétés, ça peut être le garçon, etc. Mais ce qui est important dans cette inspiration ethnographique, c'est que on peut se dire qu'à l'époque, ça pouvait être aussi la même chose. Posséder un bovin aussi puissant qu'un auroch, mais qu'on maîtrise, c'est des bêtes de 800 kilos, c'est énorme, c'est du prestige, mais ça peut être de la richesse, et ça peut être du lait, et ça peut être de la force motrice aussi, pourquoi pas.
Oui, ça fait beaucoup de choses en même temps.
Ben oui.
Alors, puisque vous parlez des bovins, puisque vous parlez du lait, je ne peux pas résister au plaisir de vous faire écouter cet extrait de la Chronique agricole qui a été diffusée le 21 janvier 1954, les conditions d'une bonne traite de vaches.
Amis paysans, bonjour. Veuillez écouter lecture d'une chronique de Roger Lamy qui nous parle ce matin des conditions d'une bonne traite.
La régularité de la production laitière, le volume et la qualité du lait récolté dépendent en grande partie d'une traite bien faite. Mais bien traire, c'est d'abord opérer dans les meilleures conditions d'hygiène. Avant d'entreprendre la récolte du lait, nous vous conseillons donc d'aérer l'étable. Les vaches auront été pansées et leur queue sera attachée à la cuisse. Le trailleur aura des vêtements propres. Il se sera lavé soigneusement les mains et les avant-bras.
Alors que sait-on du lait, puisque je sais que vous vous intéressez de près à ce sujet? Certaines personnes aujourd'hui digèrent le lait et d'autres non. Et tout ça, ça vient de notre histoire, de l'histoire de l'humanité.
Oui, oui, bien sûr. Alors déjà, le fait d'être capable de continuer à digérer le lait à l'âge adulte, hein, c'est ce qu'on appelle la persistance de la lactase. Hein. La lactase, c'est cette enzyme qui permet de digérer le sucre du lait, qui est le lactose. Et bien, cette persistance, cette capacité persistante à l'âge adulte, vient d'une mutation très simple. C'est une paire de bases sur un de nos chromosomes qui change et ça permet de le faire. Donc cette mutation, elle est présente relativement massivement dans certaines populations. L'Europe du Nord, certaines populations africaines, certaines populations d'Asie centrale.
Et ça vient d'où?
Alors ça vient d'où? Ça, c'est une grande question. Comment est-ce que ça a pu s'installer? Nous, on était partis sur l'idée que c'était des régions où l'élevage bovin avait pris une importance considérable très tôt. Et du coup, ça avait donné ce qu'on appelle un avantage adaptatif aux personnes qui étaient capables de digérer le lait à l'âge adulte. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, et ça marche pas très bien, cette hypothèse, parce que il suffit de transformer le lait en yaourt ou en fromage pour qu'il y ait plus de lactose dedans. Donc on a plus personne n'a aucun problème pour digérer du fromage ou du yaourt. Donc, où est la pression de sélection à partir du moment où on sait que ces néolithiques faisaient du fromage et du yaourt? Ce qu'on sait maintenant.
Alors, on le sait parce qu'on a retrouvé au fond de céramique des traces.
Voilà, alors, moi je travaille surtout sur les ossements, donc sur les systèmes d'élevage, hein, les ossements nous parlent des systèmes d'élevage, donc on a des systèmes d'élevage qui sont plutôt tournés vers la production laitière, on en a beaucoup maintenant, mais j'ai des collègues avec lesquels j'ai travaillé dans ces projets européens sur le lait, qui travaillent sur les résidus organiques qui sont dans les poteries. Et ces résidus organiques, on arrive à extraire les lipides, hein, les graisses, par rapport aux autres résidus organiques, et dans ces graisses, on arrive à reconnaître celles qui viennent du lait, et à les distinguer de celles qui viennent du tissu adipeux, c'est-à-dire des graisses de cochon, oui. Etc. Et donc, on a maintenant étudié des tessons de céramique, mais des milliers et des milliers, et on s'est rendu... On a une espèce de cartographie des endroits où on a traité des produits laitiers dans des poteries. Alors évidemment, il y a des endroits où on n'en trouve pas. Est-ce que c'est parce qu'on traitait les produits laitiers dans des contenants en matériaux périssables
qui ne résistaient pas autant,
bon,
oui.
Voilà. Mais au moins, on a cette cartographie. Et ça, c'est très important aussi, pour comprendre cette histoire.
Vous nous avez expliqué qu'on avait domestiqué des animaux et qu'on continuait à chasser. Mais est-ce qu'on sait quand même si on mangeait ces animaux domestiques, ces moutons, ces chèvres, ces bovins, ces cochons?
Oui, oui, on les mangeait. Alors, est-ce qu'ils ont été domestiqués pour faire la soudure, comme on dit? C'est-à-dire, c'est vrai que la chasse, c'est saisonnier. Il y a des périodes où les animaux, les gibiers, sont moins gras, où la viande est sèche. On a du mal à conserver la viande, etc. Et peut-être que c'était intéressant d'avoir des animaux domestiques pour ces soudures saisonnières. Donc, ce qu'on voit en tout cas, parce qu'on n'est pas capable de dire à quelle saison ils ont été mangés, bien sûr, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que ces animaux domestiques, dès qu'ils sont domestiqués, entrent dans le menu, même en petite quantité.
Jean-Denis Vigne, est-ce qu'il y a encore des questions que vous vous posez à propos de la domestication?
Oh là là. J'aimerais bien avoir des films de l'époque.
Ah oui.
Même des enregistrements sonores, ça m'irait. Parce que, évidemment, l'archéologie, d'abord, c'est ingrat. Hein. On dit, c'est formidable. Bien sûr, je suis très heureux d'être archéologue. Mais c'est ingrat. On ne trouve que des indices indirects, très abîmés. Il y a plein de questions sur toutes ces dimensions qu'on a évoquées. Quelle est la part du prestige? Quelle est la part de la familiarité entre humains et non-humains? Quels sont les mythes et les légendes qui ont sous-tendu des comportements de société qui se sont dirigés vers l'élevage ou qui ont refusé l'élevage? Vous voyez, tout ça, ça nous échappe. Alors, c'est grave, parce que c'est peut-être le plus important.
Et dans un instant, vous nous parlerez d'un des derniers animaux domestiqués, à savoir le cheval.
Oui, oui.
Je suis garé là, un peu n'importe où. Il pleut et j'ai froid, les pieds dans la boue. Tu me l'avais dit, un ciré des bottes, fin d'après-midi, tous les jours il flotte. Je regarde l'heure, mais je pense à toi et le dépanneur qui ne viendra pas. Il pleut des couteaux sur mon manteau gris. L'homme et la moto n'ont plus de batterie. La forêt s'éveille, ulule un hibou. Ta bouche, une oreille, mon souffle, ton cou. Tes mains, ton odeur, et je suis perdu. Dans une demi-heure, on n'y verra plus. Dans la boue, tu me l'avais dit, un ciré des bottes, fin d'après-midi, tous les jours il flotte.
À jamais, c'était Albin de la Simone.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Il y a 50 ans, les cochers de fiacre étaient les rois du pavé parisien. Ils stationnaient en longue file sur les boulevards. Les plus fortunés de leurs clients louaient un fiacre à la journée. Les autres clients utilisaient ce moyen de transport en réglant les courses au taximètre, appareil qui venait d'être inventé et utilisé pour la première fois en cette année 1904.
C'était un extrait de l'émission Il y a 50 ans, 1954. L'histoire du monde a probablement été révolutionnée par la domestication du cheval. Jean Dunivigne, on entend souvent dire que le cheval est la plus belle conquête de l'homme. Avec la génétique, on peut même écrire l'histoire de cette conquête aujourd'hui.
Oui, oui, bien sûr. Alors, le cheval, ce qui surprend toujours, c'est qu'il a été domestiqué finalement assez tard dans l'histoire du néolithique, hein, plutôt à la fin, dans ce qu'on appelle la seconde révolution néolithique. Au moment où, justement, la force motrice des animaux est beaucoup plus mise à profit, où la roue est inventée, où les chariots sont inventés, où on commence à monter des chevaux, où les chevaux, et comme les dromadaires d'ailleurs, c'est à peu près à la même époque, entrent en jeu dans des conflits, dans des guerres. Donc, ces domestications, elles prennent une importance considérable. C'est pas les dernières, hein, mais elles ont profondément impacté la vie de l'humanité et même transformé d'une certaine manière nos sociétés. Il faut voir que nous transformons les animaux en les domestiquant, mais ils nous transforment aussi parce qu'ils génèrent de nouvelles techniques. De la selle, une selle, des morts pour s'occuper des chevaux.
Des charrettes.
Des gens qui savent s'en occuper, la médecine vétérinaire qui va avec, etc. etc. Donc ça, c'est une innovation assez importante. Et évidemment, l'apparition du cheval dans notre univers est un élément extrêmement important, extrêmement signifiant. Oui.
Alors j'ai rencontré un scientifique que vous connaissez bien, il s'appelle Ludovic Orlando. Vous le connaissez?
Bien sûr, je le connais bien.
Docteur en paléogénétique, il dirige un centre de recherche à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Ses travaux sont mondialement connus et sa spécialité, c'est l'ADN ancien qui permet de remonter le temps sur des milliers d'années.
Alors c'est l'ADN d'un type un peu particulier qu'on a utilisé, c'est à la fois l'ADN qui existe dans les êtres vivants aujourd'hui, les chevaux que vous pouvez admirer encore aujourd'hui, mais aussi l'ADN des chevaux du passé, par exemple des chevaux qui vivaient il y a 1000 ans, 2000 ans et plus. Et cet ADN, on l'appelle l'ADN fossile ou ADN ancien, et on peut l'extraire des vestiges archéologiques comme les os, les dents et d'autres vestiges depuis maintenant pas loin d'une trentaine d'années. Mais depuis une dizaine d'années, des nouvelles technologies liées à l'essor des séquençages dits à très très haut débit ont permis de décoder non pas quelques gènes, mais en fait la totalité de l'information génétique. Pour ce qui est du cheval, il s'agit de près de 2,5 milliards de lettres dans l'alphabet génétique.
Que raconte cet ADN ? Avec cet ADN, on est en mesure de dire le cheval a été domestiqué à tel endroit et la domestication a commencé grosso modo à cette époque.
Oui, parce que l'ADN, c'est en fait ce que l'on transmet à nos enfants. Les parents transmettent en mélangeant leurs gamètes, leur ADN à leur progéniture. Si bien que par essence, l'ADN, c'est un matériau de reconstruction des généalogies. Simplement ici, on prend les généalogies à rebours, on remonte le temps, et en remontant le temps, avec des généalogies, on est capable de dire tel cheval, à tel endroit, est plus proche génétiquement, est un plus proche parent des chevaux qui existent aujourd'hui sur la planète et qu'on peut monter à loisir encore. Donc, en faisant ce travail, on peut se rapprocher presque de proche en proche du foyer qui hébergeait les plus proches parents. Et en faisant ce travail à l'échelle de l'Eurasie tout entière, sur à peu près plus d'une dizaine de milliers d'années, mon groupe a réussi à cartographier le foyer d'origine dans la basse vallée du Don et de la Volga, au nord du Caucase. Ce sont les steppes occidentales de Russie.
Donc, du côté du Caucase, mais qu'est-ce que vous avez découvert encore ? Est-ce que vous avez découvert la physionomie de ces chevaux ? Est-ce que vous avez découvert pourquoi on a commencé à les domestiquer ?
Alors, on a découvert quelque chose qui a été très très surprenant pour nous, c'est que alors que le foyer était cryptique au départ, tout petit en fait, peut-être une région qui s'étendait d'une centaine de kilomètres sur 100 kilomètres si vous voulez, en à peine un siècle ou deux, on voit ce nouveau type génétique de cheval se répandre à l'échelle de l'Eurasie tout entière. En à peine quelques siècles, il sera présent depuis l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Et donc si on le retrouve sur des étendues géographiques aussi grandes, on comprend bien intuitivement que la motivation première a dû être celle de la mobilité, d'utiliser la capacité fulgurante du cheval pour le déplacement des humains et ainsi entraîner avec lui des grandes migrations de nouveaux peuples, par exemple, comme nos travaux l'ont montré, à travers les steppes d'Asie centrale et les steppes d'Asie. Ça a donné naissance à la migration d'une culture, celle qui a inventé le char de guerre et la roue à rayons et a d'ailleurs essaimé une langue qui est maintenant, aujourd'hui, parlée par près de 2/3 de l'humanité encore.
Donc, les langues indo-européennes.
Exactement.
Ces chars dont vous parlez, on en est sûr parce qu'on en a retrouvé dans des tombes.
Il faut imaginer que les archéologues peuvent trouver tantôt des sépultures humaines, mais parfois ces sépultures humaines, elles sont présentes avec des offrandes. On peut retrouver par exemple des animaux qui y sont associés et en l'espèce, il y a 4000 ans, dans une culture que l'on appelle la culture Sintashta, on se situe dans les steppes d'Asie centrale, par exemple au sud de l'Oural, au nord du Kazakhstan, si vous voulez, on retrouve avec les humains les chevaux qui tiraient leurs chars, donc les chars sont aussi enterrés et c'est comme ça qu'on connaît l'histoire des véhicules, de leurs moteurs qui sont les chevaux et des humains qui les pilotaient.
Vous nous avez parlé des chevaux du Caucase, mais on a tous en tête les chevaux d'Amérique du Nord, à l'époque de la grande conquête de l'Amérique du Nord. Est-ce que leur histoire est la même ?
Alors, pas tout à fait. En fait, nos travaux très récents, cette fois, ont pu réécrire une partie de cette histoire. L'histoire officielle disait que les chevaux, bien qu'ils aient apparu en Amérique du Nord, on parle en millions d'années de cela, ont succombé au dernier grand changement climatique là-bas. Donc, il y a 12 000 ans, les chevaux s'éteignent dans leur berceau d'origine d'espèces, si vous voulez, les Amériques. Et ils ont découvert la Béringie, ils sont passés du côté eurasiatique au préalable, et ainsi, ils ont pu être domestiqués fabriqués en Eurasie pour revenir avec les conquistadors lors du temps de la colonisation des Amériques. Cependant, l'histoire officielle disait que les Indiens des plaines avaient acquis le cheval après 1680. C'est une date assez importante car il s'agit d'une révolte des Pueblos, qui sont un peuple amérindien, qui a pris la main sur le pouvoir colonial en place, celui d'Espagne au Nouveau-Mexique. Et prenant en place pendant une vingtaine d'années le pouvoir colonial, ils ont mis la main sur les chevaux des conquistadors et ainsi les auraient redistribués aux peuples amérindiens locaux. Nos travaux viennent de montrer que l'histoire n'est pas tout à fait celle-ci, puisqu'on a retrouvé des traces archéologiques de chevaux bien espagnols, hein, génétiquement espagnols, mais associés aux Indiens d'Amérique dès 1600. Donc il faut penser que les Indiens d'Amérique, qui sont cette icône des grandes plaines de l'Ouest, se sont réappropriés un cheval qui n'était plus à eux, mais l'ont fait dès les premiers temps de la colonisation de leur territoire.
Mon nom est Thomas. Nous venons de l'autre côté de la vallée. Nous avons laissé des chevaux que nous menons vers le sud.
Je suis le colonel James Langdon, monsieur Thomas. Que puis-je faire pour vous ?
C'est plutôt nous qui pouvons faire quelque chose pour vous. Il semble que vous êtes suivi par des bandits et que vous allez tomber dans une embuscade.
La domestication du cheval a changé le monde, mais que s'est-il passé ? Racontez-nous, Jean-Denis Vigne. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque des Indiens ?
Alors, c'est plus des suppositions, hein, parce qu'on a assez peu d'éléments, mais on a quelques textes un peu cryptiques du tout début de la colonisation occidentale en Amérique du Nord, un petit peu en Amérique du Sud aussi, qui suggèrent que les Amérindiens ont connu l'Occident par les vaches et les chevaux avant de les connaître par des humains.
Oulala, expliquez-nous ça.
Je m'explique. En fait, devant ces fronts de colonisation, on peut les appeler comme ça, hein, d'avancée des Occidentaux dans ces territoires amérindiens, eh bien, ils sont avec des vaches, avec des chevaux, et ces animaux échappent à leur contrôle et finalement précèdent le front de colonisation à tel point que en Amérique du Nord, en particulier, pour revenir au sujet, certains Indiens, certaines sociétés indiennes ont vu des chevaux, animal qu'ils ne connaissaient pas du tout, les ont capturés, les ont domestiqués d'une certaine manière, et quand les Occidentaux sont arrivés au contact de ces populations, ils ont trouvé des Indiens qui
à cheval
possédait des chevaux, à tel point que ça existait pendant longtemps dans nos mythes, hein, ben les Indiens avaient des chevaux en Amérique et les avaient domestiqués. Et les Indiens et les chevaux, c'est associé à l'Amérique native, etc. Alors, ce qui n'est pas du tout vrai. Mais ce front qu'on appelle front de marronnage, hein, c'est un phénomène qu'on retrouve très fréquemment dans toutes les grandes colonisations, par des Occidentaux en particulier, et qui a probablement eu lieu au tout début du néolithique en Europe. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible que nos chasseurs-cueilleurs européens aient vu des vaches venant du Proche-Orient avant de voir des néolithiques du Proche-Orient et d'entrer en contact avec eux.
Et tout ça, on le sait grâce à la génétique aujourd'hui.
Alors, on le sait avec la génétique, mais pour ce qui concerne les sociétés amérindiennes, par exemple, on le sait aussi avec des textes et puis avec des données archéologiques. Et donc, l'intérêt, c'est évidemment la paléogénétique, c'est un outil formidable, hein, c'est pas moi qui vais dire le contraire, hein, puisque j'ai beaucoup milité pour. Mais ce qui est intéressant, c'est justement, comme l'a très bien fait Ludovic Orlando, hein, c'est d'arriver à faire la synthèse des données d'archéologie, d'ethnographie, de linguistique et de génétique pour reconstruire une histoire.
Et ces voyages dans le temps sont extraordinaires et vous racontez très très bien, Jean-Denis Vigne. Vraiment, c'est dommage que l'émission soit trop courte. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Merci à Ludovic Orlando. Son dernier livre, La conquête du cheval, une histoire génétique, est paru chez Odile Jacob. Et merci à Jean-Denis Vigne du Muséum National d'Histoire Naturelle.
Alors pour aller plus loin, j'avais écrit un petit ouvrage en 2012 aux éditions du Pommier qui s'appelle Les débuts de l'élevage. Et puis sur le chat de Chypre et la domestication du chat, il y a actuellement une très très belle exposition au Muséum National d'Histoire Naturelle dans la Grande Galerie de l'Évolution, exposition temporaire jusqu'en janvier 2024. 1984.
Marie-Hélène Patou-Baptiste, préhistorienne et la conseillère scientifique des Saventuriers. Cette émission est réalisée par Jérôme Boulet, attaché de production Caroline Prota. La programmation musicale est signée Djoubaka. Samedi prochain, nous parlerons des animaux nuisibles et on va mettre attention de gros guillemets. Mais si vous êtes impatient, toute la série des Saventuriers est disponible en podcast sur l'appli Radio France.
Thank you.